Bienvenue à Sur la ligne, cette émission tout tennis cette semaine. On revient sur le tournoi de Madrid, Alcaraz est champion et on a eu droit à une finale surprise du côté des femmes. Et dans tout ça, il y a du positif du côté de Félix Auger-Aliassime. On surveille également ce qui s'en vient du côté de Rome. Nicolas Richard, bonjour Hugues Léger, bonjour les gars. Êtes-vous prêts?
Ok oui.
C'est parti!
Salut, salut les gars, très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Sur la ligne, l'émission officielle, le balado officiel de l'Omnium Banque Nationale. On est disponible sur toutes les plateformes de balado que vous connaissez et on est également diffusé au 91.9 Sport. Je suis en compagnie de Nicolas Richard en direct de l'hôtel Montville, exceptionnellement. Hugues Léger n'est pas là puisqu'il doit donner des cours de tennis aujourd'hui. Comment te portes-tu, Hugues?
Oui, j'ai un tout à donner aujourd'hui à NB. Notre collègue Richard Soucy est en tournoi ITF en Floride, donc je le remplace à pied levé pour les sports études cette semaine, donc ça me garde dans la région.
Et Nicolas Richard, tu m'accompagnes, toi, à l'hôtel Montville. Tu as ton équipement de hockey. Comment s'est passé le deck hockey ce matin?
Le deck hockey s'est très bien passé ce matin. C'est un cardio quand même encore, toujours un peu douteux, mais on y travaille tranquillement. Mais moi, je suis curieux de savoir, Hugues, ce qu'il y a au menu aujourd'hui pour les élèves. Est-ce que c'est des enchaînements services volés? Est-ce que c'est du double? Est-ce que c'est les coups en parallèle? Qu'est-ce qu'on pratique aujourd'hui, les services?
C'est un petit groupe aujourd'hui. On pratique les kick-serve parce que c'est pas évident quand tu as 13-14 ans de bien faire le mouvement du kick-serve pour avoir une balle qui spin vers l'extérieur. Donc, c'est un enjeu. Ils aiment bien ça. Je les fais servir nous. Ça force à monter vers la balle, puis j'aime bien aussi les faire travailler sur leur force, c'est-à-dire de contourner souvent leur revers pour aller sur le revers de l'adversaire en coup droit décroisé. Donc, on va sur les forces. Mais c'est un bon petit groupe aujourd'hui.
Est-ce que tu penses, Alex, que les jeunes réalisent qu'ils sont avec Hugues Léger?
Les gars, je le répète à chaque semaine qu'il faut qu'ils écoutent le podcast. Là, donc,
non, exactement.
Tu vois le niveau de légende.
Hugues qui va chercher les partisans à la base. Écoutez, messieurs, on va parler de tennis puisque c'est notre mandat. On a eu droit à un tournoi particulièrement intéressant à Madrid. Commentaire général, messieurs, sur ce tournoi-là?
J'ai hâte de vous entendre, les gars, parce que je sais qu'on s'est beaucoup parlé au cours du week-end là, dans notre groupe chat. Mais Carlos Alcaraz, je pense que c'est lui là, qui retient l'attention. Je pense que ça va de soi. C'est tout à fait extraordinaire. Je n'aime pas employer le terme « incroyable » parce que tout est croyable. Mais j'ai de la misère à croire qu'il est capable de maintenir le rythme. On se disait, OK, peut-être là, au cours des dernières semaines, que c'était un beat, qu'il avait le rythme, que les joueurs peut-être étaient peut-être un petit peu incapables de le saisir, si vous me permettez l'expression. Mais force est de constater qu'il est inarrêtable présentement. J'ai de la misère à en croire mes yeux lorsque je le vois jouer. Il a tout ce qu'il faut pour réussir. Et tu sais, on dit souvent qu'il est l'héritier de Nadal, que son idole, c'est Federer, mais plus je le vois jouer, plus je me rends compte qu'il a le meilleur des deux joueurs. C'est-à-dire l'allégresse, la patience, la précision de Federer, mais d'un autre côté, le caractère bouillant, la force, les jambes de Nadal. Franchement, les gars, là, j'ai hâte de voir où tout ça va nous mener. Il vient d'avoir 19 ans seulement la semaine dernière. C'est tout à fait exceptionnel ce qu'il fait.
Oui, bien, écoutez, le premier joueur de l'histoire qui bat successivement Djokovic et Nadal sur terre battue, qui sont les deux meilleurs du Big Three sur terre battue, je tiens à le dire. Là. Donc, c'est quand même exceptionnel. Ils sont peut-être plus au sommet de leur carrière, les deux, mais quand même, Djokovic a joué très, très bien cette semaine, au-delà de mes attentes. Vous savez que je trouvais qu'il progressait assez lentement, mais là, il est de retour à un très, très haut niveau. Nadal, qui est le joueur de terre battue, évidemment. Moi, je suis vraiment impressionné du niveau de maturité dans le jeu d'Alcaraz pour seulement 19 ans. Et sa maturité physique aussi. Souvent, les jeunes qui arrivent, qui pointent tôt, comme ça, à 18 ans, 19 ans, 20 ans, on dit, ouais, c'est plus compliqué pour tenir des matchs plus physiques, pour des longues durées. Nous, quand Andy Murray est arrivé, c'était difficile d'avoir des très longs matchs pour Murray quand il est arrivé dans les années 2000. Mais Alcaraz, dès qu'on l'a vu un peu plus l'an passé, on a dit, waouh, physiquement, là, c'est impressionnant. Donc, c'est un adulte là, déjà à 19 ans. C'est un gars qui a une maturité physique impressionnante. puis une maturité au niveau de ton jeu qui est complètement fabuleuse. Écoute, moi, on a échangé ce week-end sur ça, les gars, mais moi, je le vois après ses performances des dernières semaines et sur dur durant l'automne. Comme potentiel numéro un dans un horizon de peut-être un an et demi. Là. Et ça, c'est une nouvelle affirmation qu'on va amener aujourd'hui. Mentalement, physiquement, variété du jeu, sa rapidité sur le terrain, sa défense, sa transition vers l'offensive. Quelle belle victoire il a fait à Madrid. Et là, il se repose cette semaine. C'est l'enjeu d'avoir deux Masters Mill qui suivent une semaine après l'autre. On va en parler un petit peu plus. Mais c'est un prétendant tout à fait légitime pour Roland Garros. Bravo, Carlos Alcaraz. C'est un vent de fraîcheur qui arrive sur le tennis. Là.
Non, mais ce que j'allais dire juste pour compléter sur le tour de force d'Alcaraz, ce qui m'impressionne le plus, il y a deux choses. T'sais, rappelez-vous, lorsque Leila avait fait son parcours au US Open, on se disait crime, elle est bonne d'avoir battu des champions de Grand Chelem comme Osaka, Kerber, de bonnes joueuses comme Sabalenka aussi coup sur coup. Mais Alcaraz s'est débarrassé de 41 titres Grand Chelem, back à back, dos à dos, comme dirait Claude Julien. Et en plus, contre Zverev, il a détruit Zverev. Ouais. C'est de la façon. Il n'a jamais semblé écopé d'affronter ces deux grands ténors du tennis. Donc, la finale qu'il a jouée contre Zverev, je pense que c'est ce qui m'impressionne le plus. Oui, évidemment, le fait d'avoir battu coup sur coup Djoko et Nadal, mais le fait qu'il lui reste des forces pour affronter Zverev ne lui laissant pas aucun pouce. Zverev n'a jamais, jamais été en contrôle de ce match-là. Alcaraz, de bout en bout, a été le leader de ce match-là. Et je pense que la façon dont il a répondu et dont il a conclu cette séquence-là, c'est ce qui m'impressionne le plus pour Alcaraz.
Oui, en ce moment, je crois qu'il est le meilleur joueur au monde. Zverev l'a mentionné. Je pense que, évidemment, c'est sa surface de prédilection en ce moment, mais en ce moment, il peut battre n'importe qui. Il est au-dessus de joueur. Je pense qu'il battrait Medvedev aussi. Il a battu Tsitsipas, donc à deux reprises déjà. Donc oui, c'est le meilleur joueur au monde en ce moment.
Ben, évidemment, Medvedev, c'est pas le meilleur joueur sur terre battue non plus. Là. Il est toujours à bout. Et Nico, toi, tu as un joueur à prendre. Est-ce que tu prends Carlos Alcaraz au moment où on se parle?
Juste avant d'y aller avec ta question, juste pour répondre au truc de numéro un, ce qu'il faut retenir, les gars, puis je le répète souvent, mais je pense que c'est un facteur à ne pas négliger. L'an prochain, Alcaraz aura quand même 4 titres à défendre et la saison n'est pas terminée. Peut-être qu'il va remporter un majeur, donc il faudra se rappeler aussi qu'il a accumulé des points et qu'il devra défendre ses points. Je pense qu'il pourra le faire, mais quand même, c'est à considérer, je pense, lorsqu'on parle du premier rang mondial. Et pour ce qui est de sauver ma vie, je pense que, parce que j'y réfléchissais en m'en venant, puis parce que je savais qu'Alex allait en parler, ça va peut-être sembler paradoxal, mais si j'avais à miser pour ma vie présentement, je pense que quand même, j'irais avec Djoko. À mon avis, il est le meilleur joueur au monde. Il a un bagage d'expérience qui est non négligeable présentement. J'avais à gager pour ma vie. Mais si j'avais à gager contre quelqu'un, ce serait pas contre Alcaraz. Je ne sais pas si vous me suivez. Dans le sens où présentement, je prendrais Djoko pour sauver ma vie, pour miser pour lui.
Oui.
Mais je ne miserais pas contre Alcaraz présentement.
Oui. OK, mais là, Nico, tu ne tomberas pas en question de même si facilement. Là. Fait que si tu as un match Djokovic-Alcaraz, tu mises sur qui?
Je vais penser à ça. Si, aïe, ben, je vais quand même dire Djoko, je vais être décevant, là. Parce qu'avec le bagage d'expérience, surtout le fait qu'il vient de l'affronter, il a certainement beaucoup appris de Djoko parce qu'on apprend encore beaucoup à cet âge-là. Ouais, je suis plate, mais je vais quand même miser sur Djoko pour l'emporter parce qu'il est le numéro mondial, parce qu'il est sûrement le plus grand de tous les temps. Ouais, je suis décevant. Hein?
Ah ben donc, bon, c'est vrai, t'as au moins répondu clairement à la question. Et maintenant, bon, au moment où on se parle, est-ce que Djokovic est ton favori pour remporter Roland-Garros ou est-ce que tu dis, à court terme sur Roland-Garros, j'irai avec Carlos Alcaraz en raison de ses résultats à Barcelone et Madrid notamment?
Moi, Roland-Garros, mon favori, c'est Nadal, les gars. Je vous l'ai dit, tant ou si longtemps que Nadal sera là, c'est comme gager contre Brady au Super Bowl. Je ne peux pas gager contre lui. Nadal va revenir en force. Je pense que cette défaite-là contre Alcaraz lui a fait mal beaucoup à l'orgueil parce qu'on a beaucoup parlé de la passation du flambeau, mais je suis convaincu qu'au fond de lui, Nadal sait qu'il est encore bien présent et bien capable de battre Alcaraz. Je suis encore avec Nadal pour Roland Garros.
La question dans le cas de Nadal, c'est est-ce que son pied l'embête? C'est ça qu'il faut savoir dans son cas. Parce que son niveau de jeu me semble plus qu'intéressant. Hugues, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses en ce moment? Qui est ton favori pour remporter Roland Garros?
Moi, je reste sur mes deux joueurs de la séquence de terre battue, c'est-à-dire Tsitsipas et Alcaraz en ce moment. Donc, j'avais Rude dans le mix, mais Rude n'a pas une très bonne séquence en ce moment. Donc, ça va être Tsitsipas. Si j'ai à gager aujourd'hui, Tsitsipas et Alcaraz. Et pas loin derrière, Nadal et Djokovic. Mais ça va être seulement Tsitsipas ou Alcaraz. Ils sont mûrs pour gagner un ou l'autre cette année.
Avant qu'on aille du côté des femmes, messieurs, je veux qu'on revienne sur quelques petits trucs dont on a parlé. On a déjà commencé à parler du côté des hommes. Bon, on parlait de Djokovic. Ça aurait été le fun d'avoir un match Murray-Djokovic. On n'a pas eu droit à ça. Est-ce que vous étiez déçus, messieurs? Je pense que Andy Murray lui-même était particulièrement déçu de ne pas pouvoir jouer ce match-là.
Ouais, c'est dommage, mais écoute, encore une fois, on va être avec Murray dans des situations où physiquement, il doit être prudent, très prudent. Ses matchs sont souvent longs en ce moment, il joue beaucoup. Il joue, on le sait, avec une hanche en métal, donc c'est pas évident. Mais j'aurais aimé savoir ce clash, surtout que Murray a souvent eu le numéro de Djokovic, comme vous le savez, mais bon, ce n'est que partie remise, mais ça seront des confrontations champagne que j'appelle, là, que j'ai hâte de revoir. On verra plus ça trop souvent.
Une confrontation mimosa dans le cas de Hugues Léger. Ça me dit, mais je sais qu'Andy Murray se disait, tu sais, il avouait de dire qu'il avait déjà commencé à penser à Novak Djokovic dans le troisième set contre Shapovalov en se disant, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas affronté, j'aimerais ça pouvoir l'affronter.
Mais écoute, tu vois, moi, c'est ça qui me faisait de la peine parce que Murray avait battu Shapo n'avait pas été terrible dans ce match-là. Je pense qu'il avait quand même tenu son bout. Puis on parlait, rappelez-vous, les gars, la semaine passée, de ce duel probant entre Djoko et Chapeau pour peut-être faire oublier cette mauvaise expérience de Chapeau à Wimbledon l'an dernier, parce qu'on se rappelle que c'est pas mal là qu'il a cassé. Puis rappelez-vous, on se parlait de cette possible confrontation entre Djoko et Chapeau, ces retrouvailles qui pourraient peut-être relancer Chapeau. Là, Murray bat Dennis et Murray déclare forfait. Donc, je trouve ça un petit peu dommage. Évidemment, ça fait partie de la game. Les blessures, on le sait, surtout pour un vieux de la vieille comme Andy Murray. Mais je trouvais ça dommage pour Denis Shapovalov qu'il n'ait pas la chance à son tour d'affronter encore le Serbe. Ouais.
Hugues, tu allais vouloir cette confrontation-là aussi, j'imagine. Hugues, tu aurais voulu voir cette confrontation-là aussi,
s'il te plaît, Alex.
Ouais, Hugues, tu aurais voulu voir cette confrontation-là aussi, j'imagine.
Excuse-moi, je t'ai perdu.
Hugues, tu aurais voulu voir cette confrontation-là aussi, j'imagine?
Ben oui. C'est... Encore une fois, on est dans une situation où on peut pas compter sur un physique à 100%, mais bon, on va les prendre quand ça va venir.
Et là, messieurs, parlons aussi de Félix Auger-Aliassime, parce que bon, je pense que c'est quand même positif ce qui s'est passé dans son cas. Moi, je m'en suis pas caché, je l'avais en finale. Je pensais que c'était le tournoi de la rédemption d'une certaine manière pour Félix. Et ça a été le cas quand même. Bon, il a perdu contre l'éventuel finaliste Alexander Zverev, mais je pense que c'est quand même d'une certaine manière mission accomplie pour Félix Nico.
Oui, ben oui, puis j'ai aimé revoir Félix sur terre battue, surtout, oui, le voir gagner, le voir à l'aise, mais sur terre battue, ouais. À l'aube de Roland-Garros, j'ai été ravi de le revoir. J'aurais beaucoup aimé qu'il batte Zverev, parce qu'un duel contre Zverev, c'est jamais simple. On sait que Félix est capable de le battre aussi, c'est surtout ça. Mais oui, écoute, je suis tellement heureux, on en parlait, ça fait plusieurs semaines. Félix n'a pas non plus gagné le tournoi, mais quand même, je pense que pour la confiance personnelle, à l'aube du deuxième grand chelem de la saison, ce n'est que bénéfique pour eux. Pour Félix.
Oui, puis c'était un Zverev très en forme cette semaine à Madrid. Moi, je suis très content que Félix ait respecté son classement en se rendant en quart de finale, donc dans les derniers 8. Et Zverev, c'est un Zverev qui jouait à son niveau numéro 3 mondial en ce moment. Donc, je pense que c'est une semaine satisfaisante pour Félix. Il y a encore une marge de progression d'ici Roland-Garros, mais c'est disons que c'est rassurant ce qu'il y a eu comme performance à Madrid cette semaine. J'ai bien hâte de voir Rome là, pour la suite.
Ouais, moi, dans ma logique où Félix se rendait en finale, je lui donnais peut-être une victoire surprise contre Tsitsipas, mais je me disais, Zverev n'est pas capable de gagner un match depuis le début de la saison. Tout est compliqué dans le cas de Zverev. Et là, ben, ça a été un tournoi un peu de la rédemption également aussi pour Zverev, qu'on a revu à un niveau plus qu'intéressant, sauf peut-être en finale. Mais semble-t-il qu'il était fatigué, là, lui, il a décliné l'horaire du tournoi. Je ne sais pas si vous avez vu ça, messieurs, là, mais Hugues, décliné, c'est peu dire. Là, il a carrément lancé l'ATP en dessous de l'autobus en disant que l'horaire n'avait pas de sens, qu'il avait joué tard, était obligé de se lever de bonne heure. Je pense que ça a été compliqué au niveau des horaires là, de façon générale à Madrid. Là.
Oui, ben, on en a parlé un peu plus tôt, Ordon. Je pense que l'alignement stratégique tout à fait à propos qui est souhaité entre l'ATP et la WTA en ce moment donne des maux de tête aux organisateurs du tournoi, tant en termes d'horaire de diffusion qu'en termes de disponibilité de terrain. Et effectivement, Zverev a un peu blâmé sa contre-performance là, de la finale. Puis je pense qu'il ne veut pas rien enlever à Alcaraz en faisant ça. Mais selon lui, son horaire des derniers jours a fait en sorte qu'il n'était pas à 100% pour sa finale.
Non, exact. Mais en tout cas, c'est un tournoi de la résurgence pour pourquoi tu ris, Nico?
Oui. Ah non, mais écoute, Alex Zverev puis Hugues va être mieux placé pour en parler que moi. Là. Il me semble que c'est tellement le pire gars de relations publiques de l'histoire du tennis.
Après Novak Djokovic,
pardon. Après Djokovic, mais a toujours, tu sais, au moins attend une journée pour. Je sais que c'était sur le coup de l'émotion, puis assurément qu'il aurait voulu gagner ce tournoi-là. Mais il me semble que ses déclarations sont jamais faites au bon moment, jamais sur le bon ton. Mon Dieu, que ce gars-là en arrache sur le plan de l'image puis de la relation publique. Hugues, je veux t'entendre absolument là-dessus parce que, assurément, on s'entend, l'horaire est absolument atroce, abominable et très mal fait à Madrid. Mais lorsque
surtout
j'ai vu
les femmes, pour les femmes,
lorsque j'ai vu Zverev, parce que je l'ai vu sur les réseaux sociaux après, je n'ai pas vu la conférence de presse live, je me suis dit, bon, encore.
C'est certain que son capital de sympathie s'est beaucoup effrité depuis 2-3 ans. Zverev, c'était un des golden boys du tennis. C'est beaucoup plus compliqué maintenant. Il y a, même dans son discours d'acceptation de finaliste, il a remercié son équipe d'être resté dans des moments difficiles. Les moments difficiles, on dirait que c'est lui qui les provoque, les moments difficiles-là. Donc, c'est beaucoup difficile pour lui d'aller chercher de la sympathie en ce moment. Et la mienne en premier. T'sais. J'étais bien content qu'Alcaraz le varlope un peu hier, honnêtement. Là. J'aurais vraiment aimé que Félix gagne aussi ce match-là. Donc, Zverev est un peu brûlé, je dirais, au niveau du public. Et il doit faire attention. Là. Il faut qu'il y ait un niveau de professionnalisme là, qui fait en sorte que il pèse ce qu'il dit et à quel moment. Puis encore une fois, ses actions là, des dernières semaines, on se souvient de l'incident où il s'est mis à frapper sur la chapitre avec sa raquette dans un match de double. Ça ne marche pas. Là. Il ne peut pas blâmer les autres tout le temps. Il faut qu'il se prenne en main. C'est un professionnel de très haut niveau. C'est un modèle. Donc, Zverev est dans une zone rouge en ce moment. Là.
Et je sais pas si vous avez remarqué, et je veux absolument rien insinuer, là, mais dans le discours de Alcaraz à la fin, il dit Zverev est un grand joueur, un grand champion et un bon gars. D'après moi, il y en a une couple qui sont étouffées avec leur tasse de café en écoutant. Écoutez, je n'ai rien insinuer, là, mais enfin, je trouvais ça intéressant. Je voulais glisser un petit mot. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à ajouter. Mais ça m'a fait sourire en coin.
Toi aussi, non, il est peut-être aimé des autres joueurs. Hein. Moi aussi, ça m'a étonné un peu quand Alcaraz a dit ça. Mais je pense qu'il le pense là, s'il le dit. Donc, on ne connaît pas comment ça se passe dans le vestiaire. Nous, on parle vis-à-vis du public et des commanditaires et des différents enjeux qu'il peut avoir récemment. Mais peut-être que les joueurs l'apprécient. Mais ça, je ne peux pas répondre à ça.
Non, et non plus, je ne vais pas non plus le rendre coupable. Je vais le garder innocent jusqu'à preuve du contraire, là, disons-le comme ça. Puis je ne vais pas prêter d'intention ou quoi que ce soit à ce niveau-là. On a parlé de Félix dans le cas de Chapeau. On en a glissé un mot précédemment. Ça a été... La bonne nouvelle, c'est qu'on ne le voyait pas vraiment plus loin que ça dans le tournoi. Mais je pense qu'on le voyait tous passer Murray.
Oui, on le voyait tous passer Murray, surtout après son match contre Humbert. Il avait bien commencé le tournoi, puis tu sais... Oui. J'en parlais à Alex, puis là, je fais le pont là, avec le tournoi présentement qui se joue à Rome. Le match avait lieu ce matin. Puis, Chapeau, il me faisait... En tout cas, dans le match que j'ai vu ce matin, là, il me faisait penser un petit peu. J'avais le même sentiment en le regardant que lorsque je regardais du golf. C'est-à-dire que lorsqu'on apprécie un joueur qu'il se place pour son coup, on se dit, OK, est-ce qu'il va l'avoir? OK, il y a un petit peu de vent. Il est pas, est-ce qu'il va réussir à mettre ça sur le terrain? Est-ce qu'il va mettre ça dans l'allée? Puis là, OK, fou. Finalement, il l'a mis, il a réussi. Chapeau, on dirait que c'est ça à chaque coup. On dirait qu'il y a toute la petite seconde en retard. Il y a tout le temps ce petit OK, il a réussi à toucher la balle. OK, il le met dans le terrain. OK, son service a passé. Il y a toujours ce petit stress qu'on n'avait pas auparavant parce qu'on se disait, mais non, chapeau. Voyons, c'est de la tarte. Chapeau est tellement contrôle. Chapeau est tellement sûr de lui. Puis là, on dirait que j'ai perdu cette assurance que j'avais lorsque je regardais Chapeau. Je ne sais pas si c'est juste moi aussi parce que ce matin, je me suis réveillé en retard. Mais j'ai ce petit doute à chaque fois que Chapeau touche à la balle. Je me dis, est-ce qu'il va l'avoir? Est-ce qu'il va se rendre? Est-ce qu'il va passer? Puis j'aime pas tant ça. Regardez du tennis avec ce feeling-là, bien honnêtement.
Oui. Il y a un jeu, c'est un mot que j'emploie souvent pour parler de Dennis, il y a un jeu un peu échevelé. Mm-hmm. Et quand il joue sur une surface qui est un peu moins prévisible comme la terre battue, ça devient encore plus compliqué. Cette petite fraction de seconde qui fait que quand il est sur sa game, sur dur notamment ou sur gazon, il est vraiment, vraiment difficile à jouer. Sur terre battue, c'est un peu plus aléatoire, je dirais. On ne sait jamais ce qui va arriver. Et sa défaite contre Murray, c'est ce qu'on a vu aussi. Et puis Murray, c'est pas un grand joueur de terre battue non plus. Il n'a jamais dit qu'il aimait beaucoup jouer sur terre battue. Puis il a même dominé Chapovalov dans le troisième set, notamment, dans deux des trois sets, parce que c'est un joueur qui est plus constant, tout simplement. Donc Chapovalov, effectivement, si son jeu n'est pas en parfait contrôle, ben sur terre battue, ça va paraître tout de suite et ça risque de paraître encore cette semaine, j'ai bien peur. Et moi aussi, après sa victoire contre Hugo Humbert, je me dis, c'est une belle victoire parce qu'Humbert, c'est un joueur qui peut surprendre aussi, mais non, Murray a vraiment eu le la semaine passée, puis cette semaine, ben on verra. Puis comme je disais la semaine passée, c'est un match à la fois. Il a pas joué beaucoup, donc on va voir, il peut se rendre jusqu'où. Mais je pense que sa tête doit déjà être en train de passer à Wimbledon, selon moi.
Puis tu sais, les gars, nous, on est comme dans... Je dirais qu'on suit le tennis pas mal au quotidien. Là, on est quand même assez branchés, puis on sait à l'actualité. Puis la semaine passée, je faisais une apparition au show de Gonzo au 91.9, parce qu'on parle souvent, les gars, à la station. Puis on parlait justement de Chapeau juste après son match de Murray. Puis il me disait, il arrive quoi avec Chapeau? Puis je pense que c'est ça le problème présentement pour Chapovalov. Les gens qui sont un petit peu à l'extérieur de la sphère tennistique, on n'en entend plus parler. Il n'y a aucune bonne raison de parler de Chapeau présentement. Puis j'ai hâte qu'on en reparle, puis que les gens, un petit peu comme en 2017, 2018, 2019, savent ce qui arrive avec Chapeau, parce qu'à chaque tournoi, il faut au moins les quarts de finale, parce qu'il y a un engouement pour Denis Chapovalov, ce qui n'est plus le cas. Puis tu sais, Gonzo, s'il y en a un, les gars qui suit le sport, c'est bien Gonzo. Puis lui-même, il ne savait pas trop ce qu'il y avait avec Chapeau, puis je pense que c'est un indicateur assez probant de... C'est peut-être un peu moins ça présentement pour Chapeau.
Oui, mais il faut qu'il gagne des matchs, Nico. Si on va en parler plus longtemps, il ne faut pas qu'il se fasse sortir à son premier match à chaque tournoi, ça va aider. Et pour ce qui est de son style de jeu, on a toujours dit que Chapeau, il a un style de jeu, en guillemets, « high risk, high reward ». Alors, ça, c'est le genre de style de jeu où quand tout fonctionne, tout va, puis tu vas être dominant, mais quand tu es off par juste un petit peu, ben là, c'est... Il n'y a plus rien qui fonctionne et tes risques, ben, ils deviennent coûteux au lieu d'être payants. Alors, c'est le cas. Je pense que c'est ce qu'on voit dans le cas de Chapeau. Il faudra que peut-être qu'il réajuste son jeu un petit peu pour retrouver une certaine constance, celle qu'il avait au début de la saison.
Exact. Exactement. Je pense que si je rebondis sur ce que Nico disait, moi j'ai bien hâte de voir sa saison sur gazon et sur dur après en Amérique. Ça va être révélateur, là. Est-ce qu'il mérite toujours d'être dans le top 15, top 10? On pense évidemment il a pour hier, mais ça va être gros test ce qui va s'en venir cet été pour lui là, pour la suite des choses. Oubliez pas qu'il y a un nouveau coach aussi, donc depuis quelques mois, donc il trouve ses marques avec lui. Mais j'ai bien hâte de voir ses performances de cet été. Il va falloir qu'il performe à la hauteur d'un top 15 mondial là, durant pour justifier sa position et qu'il continue de progresser. On s'attend à avoir une progression encore avec Denis. On voyait un top 10 en lui. Donc j'ai bien hâte de voir ça cet été.
En même temps, comme j'ai effectivement, Murray, on s'attendait à le voir passer. La bonne nouvelle dans son cas, c'est qu'il était tellement dans une partie de tableau compliqué que on ne s'attendait pas nécessairement à le voir aller plus loin parce que de toute façon, après Murray, c'était Djokovic. Est-ce qu'il aurait battu Djokovic? Tu le disais tantôt, Hugues, Djokovic commence à retrouver un niveau de jeu qui va en faire craindre, que les autres joueurs vont craindre assurément. Alors, on verra qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là. Mais bon, mauvaise nouvelle dans le cas de Chapeau, il n'a pas passé Murray. Une bonne nouvelle, c'est qu'il ne pensait pas aller bien plus loin. Messieurs, on va faire une courte pause. Au retour, on va regarder ce qui s'est passé du côté des femmes. On va aussi commencer à regarder ce qui se passe du côté de Rome. Messieurs, j'aime le plugger, le jeu des prédictions de Tennis Canada. La plateforme, elle est super belle. J'invite les gens à aller faire leur choix. Si vous voulez faire Rome, il est un peu trop tard, mais gardez à l'œil les prochains tournois qui s'en viennent. Et j'ai mis sur Twitter, moi, mon tableau des femmes, et je peux vous dire, il y avait beaucoup de rouge. J'ai connu de meilleures semaines en termes de prédictions. Cela dit, je ne suis pas convaincu que beaucoup de monde avait prédit une finale Jessica Pegula contre Ons Jabeur. Nico, est-ce que c'était ton cas?
Ben, ce tournoi-là, je veux le dire, là, ce tournoi-là, à la base, je l'ai trouvé vraiment très, très, très intéressant. Je pense que tous les duels, là, vous l'avez regardé comme moi, les gars, surtout dans avec le tableau de prédiction que vous faites, là, ce tournoi-là m'inspirait beaucoup parce que chaque bon match avait un potentiel d'être surprenant. On l'a vu, on en parlait la semaine passée, rappelez-vous, on se disait, le haut du tableau, il y a certains pièges, le bas du tableau, il y a certains pièges. Et finalement, ça s'est révélé être un tournoi assez intéressant. On a vu certaines surprises. On a vu aussi, tu sais, puis Ons Jabeur, il faut le dire. On l'a vu aussi l'an dernier à l'Omnium Banque Nationale. C'est toute une battante. Là. C'est toute une battante. Un peu, elle me fait penser un petit peu à Barty dans son physique, dans sa force, dans cette espèce de maîtrise de la plupart des coups aussi. Je ne pense pas qu'elle a encore atteint le niveau de Barty, loin de là. Et surtout, il faut le dire, tu sais, je reviens sur le marketing, pour le monde arabe, des héros comme ça, comme Ons Jabeur, c'est une représentante formidable. Je pense qu'elle a réussi à saisir chaque occasion qui se présente à elle pour bien paraître. C'est une ambassadrice formidable aussi pour la WTA. J'espère qu'elle va monter parce qu'elle est vraiment belle à voir jouer. C'est une ambassadrice, comme je l'ai dit, formidable. Franchement, tout ce qui lui arrive présentement, c'est mérité de la première ronde à la finale du tournoi de Madrid. Puis franchement, Ons Jabeur, c'est une découverte que j'ai faite au cours de la dernière année parce que lorsqu'elle est arrivée à l'Omnium Banque Nationale, où elle était parmi les meilleurs au monde, mais on n'en parlait pas tant que ça. Puis depuis un an, j'ai comme appris à découvrir une joueuse qui, je pense, a une infinité de possibilités devant elle. Puis c'est vraiment un beau projet qui est Ons Jabeur.
Que tu pensais de la performance de Ons
Jabeur? Oui, oui. Ben c'est, comme Nico dit, c'est une ambassade exceptionnelle. Première arabe à remporter un tournoi WTA 1000. Par contre, en début de saison, je me disais, est-ce qu'elle va pouvoir confirmer ce qu'elle avait démontré en 2021? Et écoute, cette victoire-là arrive un peu de nulle part, selon moi, mais ça démontre qu'elle peut encore gagner beaucoup, beaucoup de tournois. Elle est un peu plus âgée que d'autres filles du top. Effectivement, elle ressemble un petit peu à Ashley Barty dans le sens qu'elle a un jeu extrêmement complet. Elle peut sortir beaucoup de coups de sa raquette. Donc, c'est quelqu'un qui est très belle à voir jouer. Puis, j'aime aussi ce côté battante. On regarde sa victoire contre Muguruza à Wimbledon passé. Elle était vraiment mal. Elle était malade sur le terrain, littéralement. Puis, elle avait réussi à aller chercher le match quand même. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Ons Jabeur. Puis, je pense que c'est une joueuse intéressante à avoir sur le circuit pour plusieurs raisons. Donc, c'est le fun d'avoir un peu de variété au niveau des championnes. Maintenant, avec Barty qui a arrêté, Piatek qui domine. Et tout d'un coup, une Ons Jabeur qui traverse le tableau à Madrid. Là, c'est une victoire qui m'a fait très, très plaisir, en fait, cette victoire d'Ons Jabeur.
Tu as raison qu'elle a fait un peu moins de bruit depuis le début de la saison qu'elle en a fait peut-être en fin de saison l'année passée. Cela dit, quand on regarde les dernières performances, ça semble s'être replacé dans le cas de Ons Jabeur. Elle a fait deux finales dans deux de ses trois derniers tournois de terre battue. Oui. Elle avait perdu contre Bencic à Charleston aux États-Unis. Ça, c'est le tout début de la séquence. Et quart de finale contre Badosa, elle a perdu à Stuttgart. Et là, elle remporte le tournoi. Et dans ce tournoi-là, elle a quand même eu à battre Simona Halep, que nous, on voyait à peu près tous comme championne parce qu'elle jouait très bien. Elle a battu Bencic également. C'est quand même c'est une victoire bien méritée dans son cas et surtout, comme je disais, une victoire contre Simona Halep, c'est peut-être ce qui a été déterminant en quart de finale.
Oui, puis même en finale, les gars, petit aparté sur Jessica Pegula que j'apprends à aimer à chaque tournoi qu'elle fait. C'est tellement, je trouve, une belle joueuse qui a du caractère, qui elle aussi a une palette de coups assez développée, toujours le sourire. C'est une fille qui aime jouer au tennis. Je pense qu'elle est profondément passionnée par ce sport-là. Je lui souhaite vraiment le meilleur. On l'a vu aussi contre Bianca Andreescu. A été formidable. Pegula, tu sais, oui, là, présentement, je pense que ma joueuse préférée, c'est Badosa. Vous le savez, c'est pas un secret. Mais Pegula, je l'apprends à l'aimer, à l'adorer à chaque tournoi que je la vois. Elle aussi, là, c'est une Américaine qui, je pense, va attirer beaucoup de regards au cours de la séquence dont on parlait tantôt là, sur le dur qui s'en vient notamment.
Oui. Puis oublions pas que c'est Pegula qui a sorti Bianca à Madrid. Et Bianca, encore une fois, a eu un très, très, très bel amorce de tournoi. Puis je la vois progresser de semaine en semaine, Bianca. Je suis extrêmement... ça me fait vraiment plaisir de voir Bianca qui progresse comme ça. Mentalement, elle est bien. Physiquement, elle est fit aussi. Et elle perd quand même contre l'éventuel finaliste. Je pense que Bianca est sur une très belle lancée. Et again, je le dis comme la semaine passée, Bianca is back. Donc, c'est une bonne série là, pour notre Bianca aussi en ce moment. Puis Pegula, je pense qu'elle est là pour rester. On la voit pointer dans plusieurs tournois. Joueuse de très, très beau talent aussi. Encore une fois, une autre joueuse de caractère comme on les aime.
Et Hugues, Bianca a du fun.
Oui.
À jouer au tennis.
Oui. Elle semble en paix avec quelque chose, en tout cas. Elle est vraiment sereine. On l'a dit à plusieurs reprises depuis quelques semaines, mais ça se confirme de semaine en semaine. Et son jeu dominant en termes de physique, en termes d'être tôt aussi sur la balle, écoute, fonctionne même sur terre battue en ce moment. Donc moi, j'ai vraiment du plaisir à voir jouer Bianca comme ça en ce moment. C'est vraiment le fun.
Oui, tu fais bien de souligner, Hugues, et tu sais, on avait été impressionné par sa performance contre Danielle Collins, oui. Notamment, on en parlait dans l'épisode précédent, et là, une défaite contre Pegula, c'est honorable quand on regarde le parcours de Pegula par la suite, qui atteint la finale et qui va être gêné de cette performance-là à Madrid. Alors, c'est très, très, très positif ce qui se passe dans le cas de Bianca Andreescu. Et pour compléter sur ce que vous disiez au niveau de la passion de Pegula, messieurs, je ne veux pas mettre nécessairement l'accent là-dessus, mais je veux rappeler quand même que c'est une fille qui, dans sa vie, n'a jamais eu besoin d'argent. Elle ne joue pas au tennis pour l'argent. Elle est héritière d'un milliardaire. Alors, elle joue au tennis, elle, parce qu'elle a le goût de jouer au tennis et parce qu'elle veut se défoncer jour après jour pour compétitionner contre les meilleurs au monde. Elle, demain matin, elle décide d'arrêter de jouer. Il n'y a pas d'aspect financier qui va entrer en ligne de compte comparé à d'autres mondes. Alors, sans dire long sur la passion de cette fille-là qui joue au tennis simplement que pour gagner point après point et match après match. Et ça, je trouve ça intéressant dans l'histoire de Jessica Pegula.
Oui.
Messieurs, on parlait de Bianca, ça nous fait un bon lien pour ce qui va se passer à Rome. Commençons donc de ce côté-là, du côté de Rome, avec Bianca qui va affronter au premier tour Emma Raducanu. Est-ce qu'on est excité, messieurs, pour ce match-là? Hugues, je vais commencer avec toi, tu as déjà un petit sourire en coin là.
Je comprends donc. Écoute, les deux championnes du US Open 2019 et 2021 qui ont vécu un peu un passage à vide après leur grande victoire au US Open. Donc, quel match-up intriguant. Hâte de les voir. Je pense que les deux aussi ont bien hâte de se mesurer l'une à l'autre. Donc, pour un match de deuxième tour, là, c'est du costaud. Mais je pense que Bianca est prête et j'ai mis Bianca gagnante de ce duel dans mon jeu des prédictions. Je m'attends à une victoire de Bianca. Qui semble en pleine possession de ses moyens en ce moment, mais quel beau match-up, encore une fois.
Ah, moi aussi, j'ai mis Bianca championne de ce match-là. Je pense que de la façon dont les deux jouent présentement, Bianca a, c'est bizarre à dire, prouvé plus que Emma Raducanu depuis le début de la saison. Nico, tu en penses quoi?
Je souhaite vraiment Bianca le meilleur, mais ça va peut-être vous surprendre, les gars. J'espère qu'elle ne va pas se rendre trop loin. Juste avant Roland-Garros, je veux qu'elle arrive reposer, je veux qu'elle ait joué du tennis, du bon tennis, mais je veux pas qu'elle en joue trop, je veux pas qu'elle arrive fatiguée, je veux pas qu'elle arrive blessée ou amochée, je veux qu'elle arrive à Roland-Garros avec deux ou trois bons matchs dans le corps, qu'elle soit confiante, mais qu'elle arrive pas brûlée. Je veux qu'elle arrive à l'Omnium de France, aux internationaux de France, pleinement reposée, pleinement capable d'affronter n'importe qui. Sur la terre battue, vous le savez, les gars, ça pardonne pas, tous les petits bobos ressortent rapidement. C'est pour ça que pour Bianca, c'est peut-être une, deux rondes, trois rondes, mais pas plus, s'il vous plaît, pour Bianca.
Oh, j'espère. Je pense que je suis content que tu ne sois pas son coach, Nico.
Gagne le moins possible.
Non, c'est ça. C'est une drôle de stratégie, à mon avis, parce que moi, elle n'a pas joué de l'année. Fait qu'elle prend tous les matchs possibles et imaginables.
Oui, mais dans le sens que je voudrais pas non plus qu'elle affronte Alep en quart de finale. Qu'elle se brûle, que ce soit trois manches à 7-5, qu'elle sorte de là complètement amochée, avec un mal de dos ou un mal de genou quelconque. Tu sais, oui, ou si elle gagne en finale, que ce soit que des deux manches. Puis je vais signer, tu sais.
Mais c'est un bon point quand même, Nico. Je veux rajouter sur ce que Nicolas vient de dire, c'est que habituellement, il y avait une semaine de battement entre Rome et Roland-Garros. Et là, ça enchaîne hyper vite. Ça va être le 16 mai que Roland-Garros commence. Donc, ça se peut que Bianca joue son premier match le 19, mettons. Là, elle va avoir un bail au premier tour, probablement. Puis je ne suis même pas sûr parce qu'elle est 90e en ce moment. Donc, elle n'aura peut-être pas de bail au premier tour. Mais effectivement, qu'elle gagne 3 matchs, on sent une progression de semaine en semaine. Elle va arriver en confiance. Elle doit arriver fraîche physiquement. Moi aussi, je suis un peu de cet avis-là. Si jamais elle se rendait en demi-finale ou en finale, ça serait plus compliqué peut-être d'enchaîner tout de suite derrière. Donc, elle a besoin de matchs, mais aussi, elle doit mesurer ses efforts en ce moment et c'est ce qu'elle va laisser sur le terrain. J'aime bien, encore une fois, cette progression depuis quelques semaines. Fait que je suis aussi de cet avis-là là, que 2-3 matchs, ça serait très bien. Disons 3 pour qu'il y ait une progression, là, 3 ou 4 même, mais ça serait correct pour qu'elle arrive en pleine possession de ses moyens à Roland-Garros et ça reste quand même ouvert. À part Swiatek qui semble être une vraie coche au-dessus de tout le monde en ce moment, si Bianca arrive à forme et confiante à Roland-Garros, on pourrait avoir une performance étonnante pour elle.
J'ai une bonne nouvelle pour toi, Nico, parce que ça va être compliqué, ça va être compliqué dans ce tournoi-là, je te dirais. D'abord, vraiment, Raducanu s'est pas fait au premier tour et c'est peut-être pas le meilleur timing pour l'affronter non plus, parce que c'est une fille qui a repris du rythme dans les dernières semaines. On aurait aimé mieux l'affronter il y a peut-être un mois où elle n'était pas capable d'enchaîner 2 points, j'exagère, là, mais d'enchaîner des victoires systématiques. Alors, déjà, ça ne sera pas fait. Par la suite, au deuxième tour, c'est Sariba Estormo qui est une, entre guillemets, Canadian killer. La bonne nouvelle, c'est que Bianca l'a déjà battue. Mais sinon, probablement Naomi Osaka dans les pattes. Et Naomi Osaka aussi, c'est une fille qui a gagné un petit peu plus dans les dernières semaines.
Elle est blessée, Osaka.
Ouais. OK, alors ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est une méchante bonne nouvelle pour elle. Mais il reste qu'au troisième tour, tu auras peut-être un Kontaveit ou une Martic. Alors, ça ne sera pas facile. Et contre Kontaveit, elle est 0-3.
Ouais. Alors, mais tant mieux.
C'est ça. Et supposons, Nico, là, qu'elle se rende encore de finale. Elle aurait possiblement dans les pattes Swiatek. Swiatek avec une semaine de repos. Swiatek, la meilleure joueuse au monde. Swiatek qui va probablement gagner le tournoi. C'est ça que j'ai mis dans mon jeu des prédictions.
Mais tu vois, à la place de Swiatek, je ne voudrais pas non plus affronter une Bianca qui a gagné 3 matchs consécutifs à son retour quand ça va bien. Oui, on sait que c'est la meilleure au monde, surtout sur terre battue, mais avec Bianca, c'est un piège. On ne le sait jamais. Puis à la place de Swiatek, j'arriverai pas dans ce match-là ultra confiante non plus, même si elle aussi a un momentum d'enfer. Une Bianca qui gagne 3 matchs à l'aube d'un grand tournoi. Ouais. Attention.
Je suis certain, les gars, qu'en ce moment, les filles regardent les tableaux et ne veulent pas affronter Bianca. Non. Là, oh, attention, Bianca Andreescu est vraiment de retour. Et elle s'épanouit, puis elle performe à son mieux dans les grands matchs des gros adversaires. Elle attend de montrer que le US Open 2019, ce n'était pas une erreur de parcours. Là. Moi, je peux battre Swiatek, je peux battre les meilleurs au monde. Donc, je pense que beaucoup de joueuses en ce moment craignent de voir Bianca Andreescu sur leur passage en ce moment.
100% raison. Match intéressant à suivre, messieurs, au premier tour. Mis à part les Canadiennes, on reviendra aller là. Kalinina contre Madison Keys. Kalinina, on ne la connaissait pas beaucoup, mais elle a fait des flamèches dans le dernier tournoi. On pourra peut-être faire un petit profil de cette joueuse-là éventuellement. Qu'est-ce qu'on s'attend, messieurs, pour Leila Annie Fernandez? J'ai dit qu'on allait y revenir. À quoi on s'attend du côté de Leila, Hugues? Parce que là, ça va prendre des victoires dans son cas, là.
Ouais, ben écoute, comme on se disait, je dirais pour Shapovalov en ce moment, Leila, c'est assez compliqué là. Moi, je la sens pas solide en ce moment. Après une très belle performance à la Billie Jean King Cup où elle a vraiment assumé son rôle de numéro 1 de l'équipe à Vancouver pour nous qualifier pour les finales, c'est plus compliqué sur terre battue. Pavlyuchenkova en ce moment mène 6-1 a gagné le premier set 6-1 déjà, c'est en cours là. Donc ça va être un premier tour déjà extrêmement vraiment périlleux pour Leila. Et oubliez pas, c'est pas une joueuse qui est hyper à l'aise sur terre battue. Elle aime bien jouer dans le rebond, jouer très tôt sur la ligne. C'est plus compliqué là, contre les grosses cogneuses sur terre battue d'appliquer son jeu. Donc, moi, je pense que elle se dirige là, peut-être vers une défaite au premier tour. Là. C'est encore une fois défaite 1-6 au premier set là, dans le match qui est en cours contre Pavlyuchenkova, qui est 14e favorite.
Ouais, puis si elle s'en sort, on regarde le tableau, c'est Badosa peut-être dans deux tours. Et il ne bat pas Badosa qui veut. Alors, c'était mon seul point.
Et déjà, Pavlyuchenkova, c'est la dernière finaliste à Roland-Garros, si je ne me trompe pas. Alors, affronter la finaliste à Roland-Garros au premier tour sur terre battue, c'est jamais une bonne nouvelle. Donc c'est ça. Ben, elle est là, on verra ce que ça va donner. Un peu comme dans le cas de Félix Hugues, elle devra être en mesure de gagner ces matchs-là si elle veut éventuellement augmenter son classement, mais elle n'avait pas un tableau très facile non plus, là, Kazatkina puis Badosa sur son parcours. Messieurs, qui va remporter ce tournoi-là selon vous? Est-ce que Swiatek part grande favorite? Est-ce que vous avez quelqu'un d'autre dans votre mire? Est-ce que Simona Halep vous a donné confiance pour qu'elle aille très loin dans ce tournoi-là? Nico, je commence avec toi.
Ben, c'est la réponse logique. T'sais, c'est sûr que là, le momentum qu'elle avait, elle l'a un petit peu perdu en raison de la pause qu'elle a prise. Puis pendant ce temps-là, il y a d'autres joueuses qui ont émergé. Ça demeure quand même la favorite. Elle est la meilleure joueuse au monde, surtout sur terre battue. Badosa n'est pas à éliminer du portrait non plus. J'aime aussi les chances quand même. T'sais, j'allais dire, oui, toutes les filles qui sont là, en fait, sur terre battue, c'est tellement imprévisible. T'sais, on regarde des Muguruza, ça va moins bien, mais on ne sait jamais lorsqu'elle peut sortir un lapin de son chapeau. Même chose pour une Sabalenka ou une Azarenka. Je ne serais pas original, mais je pense que ça va jouer entre Swiatek et Badosa. Si Dieu nous peut nous donner des surprises, ben tant mieux, mais je pense que ça va jouer beaucoup entre Swiatek et Badosa. Puis Swiatek, écoute, ce serait juste dans la lignée de ce qu'elle est capable de faire, de nous sortir un autre grand tournoi juste avant Roland Garros. Ce serait extraordinaire.
Est-ce que tu as d'autres joueuses dans ta mire du côté des femmes?
Ben moi j'aime beaucoup la séquence de Simona Halep depuis qu'elle est avec Mouratoglou. Ça semble bien cliquer entre les deux. Elle a une nouvelle confiance dans son jeu. Elle a retrouvé ses repères sur la LED, visiblement. Mais je crois effectivement que ça va jouer aussi entre Swiatek et Badosa, ce tournoi-là. Peut-être que Swiatek va attendre. Enfin, elle ne va pas attendre, mais je pense encore une fois, tout le monde qui est ici à Rome pense déjà à Roland-Garros. Le but, c'est de se manager, de gérer au mieux pour arriver à Roland-Garros. Je ne serais pas étonné qu'il y ait quand même une gagnante surprise aussi à Rome parce que Roland Garros enchaîne tout de suite derrière cette année. Ça va aller très vite, mais pourquoi pas une Badosa qui sortirait gagnante? On l'attend là, depuis le début de cette série sur terre battue.
Est-ce qu'une Ostapenko, une Ons Jabeur ou Jessica Pegula, dont on a parlé précédemment, pourrait venir mêler les quatre, messieurs?
Bon, Ons Jabeur, assurément, elle sort gagnante de l'autre tournoi. Ce serait tout à fait normal aussi qu'elle gagne. Puis Goula, je ne sais pas. T'sais. Oui, je l'adorais, comme je vous l'ai dit tantôt. Est-ce qu'elle peut faire ça deux tournois consécutifs, coup sur coup? Je ne sais pas. Ons Jabeur, assurément. Ostapenko, je serais le premier heureux. Là. Je veux dire, si elle sort un gros tournoi et qu'elle remporte le tournoi de Rome, ce serait fantastique. Je ne pense pas qu'elle puisse parvenir. Mais oui, la terre battue, comme je vous disais, c'est ça. C'est des surprises. Ça dépend des adversaires que tu prends. Ça dépend de ta condition physique. Ça dépend de la météo aussi beaucoup. Il y a tellement de facteurs qui peuvent jouer en ligne de compte que c'est compliqué à prédire. Mais assurément qu'à l'aube de Roland-Garros, là, toutes les filles voudront sortir un gros, gros tournoi. Mais je pense quand même que Swiatek et Badosa sont une longueur d'avance en avant.
Oui.
Messieurs, on va faire une courte pause au retour. On va regarder ce qui va se passer du côté des hommes cette fois-ci. Messieurs, il nous reste un peu moins d'une dizaine de minutes à l'épisode. On va regarder ce qui va se passer du côté des hommes. On a parlé un peu de Chapovalov. Est-ce que sa performance de ce matin te rassure un peu, Nico?
Ben oui, mais comme je te dis, j'étais tellement pas certain de chaque coup qu'il faisait, surtout contre son adversaire, le jeune Italien. Oui, il avait un bon adversaire devant lui. J'étais pas 100% convaincu. Ça finit par se placer. J'ai manqué le dernier set, là, mais j'ai regardé le premier et une partie du deuxième. Mais chapeau, on sait jamais. On sait jamais. Tant mieux s'il avance dans le tableau. Sinon, ben, ce serait dans la logique des choses présentement qu'ils doivent s'incliner. Là, il va affronter qui au prochain tour? Est-ce qu'on le sait déjà?
Oui, attends, je vais te le dire à l'instant.
J'ai le tableau devant moi, mais j'ai pas.
En attendant, toi, Hugues, est-ce que chapeau, c'est une performance? C'est Basilashvili qui va affronter au prochain tour.
Ah, OK.
Est-ce que ça te rassure la performance de chapeau?
Oui, c'était un premier tour piège. Je pense que c'est une bonne chose qu'il l'ait gagné, mais deuxième tour encore très, très compliqué. Là, je vous le dis, moi, c'est match par match avec Shapovalov. Je m'attends à avoir de la stabilité. Et j'ai plus beaucoup de temps, mais je voulais vous dire tout de suite que je salive à la perspective de revoir match Karatev, Djokovic. Ils sont 1-1 en ce moment, un contre l'autre. Et un des plus beaux matchs de l'année 2021 quand Karatev avait battu Djokovic chez lui à Belgrade. Donc très, très gros.
Ça prend au deuxième tour. Ouais.
Pardon, ouais, deuxième tour. Moi, je vous dis tout de suite, je vois Nadal champion. Je pense qu'il va il va sortir une performance dans ce tournoi-là. Son premier tournoi depuis son arrêt à Madrid a été quand même très bon. Et je vois Nadal aller jusqu'au bout à Rome cette semaine.
Ouais, surtout que, comme je disais tantôt, je pense que là encore, la défaite contre Alcaraz sur le cœur, je pense que ça lui a fait mal, surtout devant le prince d'Espagne, là, où c'était comme le gros duel.
Ouais.
Il a échappé ce match-là, Nadal. Il aurait pu, mais tu sais, là, on ne sait pas, comme tu disais, son pied, est-ce qu'il va tenir? Mais avant Roland-Garros, je pense que Nadal a envie de dire, hey, regardez, je suis encore là, le kid a encore du temps, là, mais moi aussi, je suis encore là. Prenez-moi au sérieux, puis c'est moi qui vais aller chercher Roland-Garros. Donc, regardez-moi à Rome. Moi non plus, là, je ne voudrais pas être sur le chemin de Nadal présentement. J'ai pas envie de dire l'homme à battre, mais c'est l'homme que tu ne veux pas affronter.
Et surtout qu'Alcaraz, ben, il n'est pas là dans ce tournoi-là, on l'a dit, il a pris une semaine de congé. Hugues, ouais. Je vais te laisser aller parce que tu dois aller sur le terrain de tennis et je vais conclure l'épisode et la fin du tableau avec Nico. Je te souhaite un bon tennis, mon gars, puis merci de faire la promotion du tennis et la promotion du podcast en même temps.
À très bientôt, salut.
Bye-bye. Okay, Nico, je veux qu'on regarde aussi ce qui se passe du côté de... de Shapovalov, je te disais, Basilashvili, ça ne sera pas simple. Il est 0-2 contre Basilashvili. Et s'il fallait qu'il se rende plus loin, il aurait possiblement Rafael Nadal dans les pattes au troisième tour. Et là, Rafael Nadal, sur terre battue, je pense qu'il a perdu ses 4 derniers matchs contre Nadal. Honnêtement, ça va être encore un tournoi difficile pour Shapovalov, j'ai l'impression.
Ouais, ça va être difficile. Pour moi, ça va se terminer là, avant le troisième tour, là, du moins, s'il ne se rend pas à Nadal, ben Nadal, je pense, va éliminer Chapeau. Mais tu sais, on regarde le tableau, il y a tellement de... Tu sais, si on veut prédire un gagnant, oui, évidemment, là, je viens de dire que Nadal va l'emporter, puis je le pense fermement, mais il y a tellement de belles surprises qui pourraient arriver. Tu sais, on regarde aussi Félix, qui est dans la même portion de tableau que Nadal, que Chapeau, que Djoko, que Schwartzmann aussi sur terre battue n'est pas négligé, que Hurkacz aussi, qui est l'ancien partenaire de double de Félix. Il y a tellement de bons gars, Casper Ruud, Rublev est là aussi, Tsitsipas. Il y a des gros noms. Honnêtement, j'aimerais beaucoup que Nadal se rende au bout. Oui, parce que sur terre battue, il est le meilleur, mais aussi parce que ça mettrait la table pour un tournoi absolument phénoménal à Roland-Garros. Puis est-ce qu'on s'entend pour dire, Alex, que la finale que tout le monde veut à Roland-Garros, c'est Alcaraz contre Nadal?
Ouais, je pense que ouais. Je pense que Alcaraz contre Nadal, ou peut-être, écoute, tu vas être nostalgique, un Tsonga Nadal. Pour que Tsonga, un Français, à la maison, puisse dire au revoir dans une défaite de 6-0, 6-1, 6-0 contre Nadal.
Honnêtement, si Tsonga sera en finale de Roland-Garros, là, j'arrive en chess à la prochaine émission avec le drapeau français dessiné sur moi. Ça, non, écoute.
Fais attention avec tes prédictions, toi, parce que j'ai l'impression que tu vas faire un show sur deux en chess, là, si ça continue. Je suis d'accord avec toi. D'un point de vue tennis, ce serait vraiment cool d'avoir un Nadal Alcaraz, mais pourquoi pas un Nadal Djokovic ou un Alcaraz Djokovic pour un passage du pouvoir, tu sais,
Ouais, ben oui, puis tu sais, rappelle-toi, je pense qu'il y a deux semaines qu'on se disait à quel point ce tableau-là de Roland Garros va être difficile à prédire. Parce que, écoute, je te fais brièvement la liste de tous les gars qui, je pense, ont le potentiel de gagner Roland Garros. Nadal, Djoko, Alcaraz, Tsitsipas, Ruud, Zverev, Sinner, pourquoi pas Félix. Écoute, il y a tellement de prétendants à ce titre-là. C'est assurément, je pense, le grand chelem qui sera le plus âprement disputé cette année, parce qu'à Wimbledon, c'est dur de prévoir, puis les spécialistes sur gazon sont actuellement dans une classe à part. Le US Open, c'est un peu tôt pour le prédire, mais les meilleurs sont souvent les meilleurs. Mais Roland Garros, c'est le plus dur à prévoir, surtout cette année où il y a presque une dizaine là, de prétendants au titre, sérieux prétendants au titre. Ce sera du bonbon. Puis présentement à Rome, tantôt on parlait du calendrier qui est assez resserré, mais en même temps, pour les amateurs, c'est un bon indicateur de qui sera en forme, qui le sera moins, qui seront dans les prétendants, qui ne le seront pas. Donc, c'est un bon indicateur, je pense, cette semaine-là à Rome. Ce sera surveillé parce que même pour les joueurs, c'est une bonne préparation. Puis après ça, c'est de savoir le tableau va ressembler à quoi. Mais oui, c'est les trois prochaines semaines pour le tennis, ce sera absolument succulent.
Si on regarde en deux minutes ce qui va se passer avec Félix, il a un bail au premier tour en raison de son classement. Adversaire déjà compliqué au premier tour contre Davidovich Fokina. La bonne nouvelle, c'est qu'il a une fiche de 2-0 contre Fokina. Ça se complique par contre par la suite. Je ne veux rien enlever à Félix, mais j'ai l'impression que ça va être compliqué d'aller une fois de plus très loin dans ce tournoi-là. Au troisième tour, tu as Schwartzmann qui est excellent sur terre battue. Fiche perdante contre Schwartzmann. Kecmanovic qui l'a affronté plus tôt cette année. Fiche perdante contre lui aussi. S'il fallait qu'il passe le troisième tour, ben là, tu te ramasses possiblement avec un Novak Djokovic dans les pattes. Par curiosité, sais-tu quelle est la fiche de Félix contre Novak?
Félix contre Novak, ça doit être 0-3.
C'est 0-0, n'a jamais affronté Novak Djokovic. Alors, peut-être qu'on pourrait avoir un premier affrontement entre Félix et Novak. Je t'ai tellement envoyé en dessous de l'autobus.
Ah, mais tu m'as flingué, là. C'était bien fait.
Alors, écoutez, vous savez à quel point j'ai le chandail de Félix toujours sur le dos, mais ça va être une fois de plus un tableau compliqué. Je veux pas utiliser ça comme excuse, mais Colin, qui n'est pas chanceux dans ses tirages de soir, est-ce qu'il peut y avoir un, deux, trois tours un peu plus simples avec. C'est jamais le cas.
Ouais, puis normalement, l'avantage d'être top 10, c'est d'avoir des bons tableaux, du moins d'avoir des tableaux plus favorables. Puis un truc pour Félix, tu as raison, c'est jamais le cas, c'est jamais simple. Puis en même temps, peut-être aussi l'historique de Félix où la constance n'est peut-être pas au rendez-vous, n'aide pas à nos prévisions, du moins à nos attentes, mais assurément que Félix, là, au cours des dernières semaines, n'a pas été chanceux.
Oui, en même temps, bon, on verra ce que ça va donner. Match de premier tour intéressant à suivre. Urkacz contre David Goffin. Goffin qui a été intéressant la semaine passée. Sébastien Corda contre Botic Van Zandschou. Match intéressant à suivre également au premier tour. Et Nico, avant que je te laisse et que je te laisse le mot de la fin, qui sera ton gagnant du côté des hommes?
Ça va être Nadal, j'ai pas le choix, ça va être Nadal, mais ouais. Oui, ça va être Nadal. Je suis pas original encore, là, vraiment pas, mais ça va être Nadal.
Moi, j'avais Alcaraz comme champion avant qu'il déclare qu'il ne sera pas là, alors mon tableau est déjà, entre guillemets, scrap.
Mais sinon, tu manques.
Je pense que je vais y aller avec Novak parce qu'il a une belle progression constante des dernières semaines. Je pense qu'il tranquillement rejustifie son titre de numéro un mondial. Évidemment, je ne peux pas mettre Nadal hors de l'équation, mais si j'ai un gars à prendre, je pense que je vais y aller avec Novak pour ce match-là. Petit mot avant qu'on se quitte, Nico, parce que je veux quand même souligner que Gabriela Dabrowski a remporté le double du côté de Madrid. Là, on a passé vite tout à l'heure, mais je voulais quand même qu'on en glisse un mot. On n'arrête pas de dire qu'elle est une des meilleures joueuses au monde et puis qu'on veut donner un peu plus d'exposure au double. Alors, je m'en voudrais de pas faire cette petite mention-là.
11e titre pour Dabrowski, elle qui avait été finaliste à ce même tournoi de Madrid en 2019 et 2021. C'était son 9e tournoi avec sa partenaire mexicaine. Tellement mérité pour Dabrowski, une fille tellement sympathique, tu le sais, tellement accessible, qui elle aussi mange du tennis. Puis on le dit et on le répète, on n'est pas assez conscient de la chance qu'on a d'avoir une fille comme elle au Canada pour représenter le double féminin. Chapeau à Dabrowski et sa partenaire mexicaine.
Exactement. Et Nicolas Richard, de La Presse, je le rappelle, je te donne, comme c'est la tradition, le mot de la fin.
Bon tennis, Alex. Bon tennis, tout le monde.